Bien, alors notre dernière destination, enfin nos dernières destinations, parce qu'il y en a deux, il y a un monument qui est juste là. Quand vous le verrez, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous verrez pourquoi je vous en parle ici et pourquoi Georges Tissot vous en parlera ici, puisqu'il y a des travaux, puis que vous pourrez juste regarder vite et il n'y aura pas la place pour tout le monde. Et donc, simplement, nous sommes ici sur les lieux mêmes d'un drame social qui est survenu à Genève le 9 novembre 1932. J'en ai déjà dit deux mots, mais je vais aller vite. Là derrière se trouve la salle communale de Plainpalais. Et dans cette salle communale de Plainpalais, l'Union nationale de GE Ultramar avait convoqué un meeting qui était en réalité une parodie de procès à l'encontre de Jacques Dicker et Léon Nicole, ce dont je vous ai déjà parlé. Le mouvement social syndical et ouvrier de Genève et antifasciste, en l'occurrence, a voulu protester et empêcher ce meeting en manifestant dans la rue. Il y a quelques membres du Parti communiste qui ont été un peu plus courageux. Enfin, ils ont réussi, eux, à entrer dans la salle. Ils ont été reconnus, ils ont été tabassés, ils ont été virés. Enfin, ils ont passé une mauvaise soirée. Mais ce n'est pas eux qui ont passé la plus mauvaise soirée, puisque, en fait, cette manifestation a fait complètement paniquer les autorités qui n'ont pas voulu prendre la responsabilité d'interdire cette manifestation fasciste. Il faut quand même bien vous placer dans le contexte de l'époque. À l'époque, une partie de la bourgeoisie genevoise considérait que, se sentait soutenue par ces milieux d'extrême droite qui étaient très implantés dans l'intelligentsia. Et donc, l'idée d'interdire ces manifestations, malgré son caractère affreux, antisémite et diffamatoire et extrêmement violent, cette idée-là n'allait pas de soi. Et donc, la majorité la plus conservatrice du Conseil d'État a pris la décision d'interdire la manifestation. Les organisateurs ont dit qu'ils la feraient quand même. Et du coup, il y a eu un peu de panique. Et ils ont décidé de mobiliser l'armée. Sauf que mobiliser l'armée, ça voulait dire faire venir des jeunes conscrits qui étaient en train de faire leur service militaire, qui n'avaient absolument aucune expérience. Alors on a évité de prendre des genevois, pour des raisons que vous pouvez imaginer, mais on a pris donc on a mobilisé des conscrits qui se trouvaient à la caserne de Lausanne et qui ont été amenés ici et qui se sont retrouvés en catastrophe à devoir contenir la foule pour l'empêcher d'aller vers enfin de, d'interdire d'attaquer ou d'interdire ce meeting. Les choses se sont très mal passées. Je ne vais pas vous raconter les détails, d'autant plus que les détails sont encore discutables ou en discussion. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ici a eu lieu une fusillade. D'abord, il y a eu des échauffourées entre ces soldats inexpérimentés et des militants qui leur ont envoyé du poivre à la figure. Il se trouve qu'il y a eu une alerte qui était un code militaire pour annoncer l'ordre d'une mise à feu. Premier avertissement, deuxième avertissement et mise à feu. Et il se trouve que très peu de membres, enfin très peu de participants à la manifestation connaissaient le sens de cet avertissement. Il y avait juste quelques anarchistes qui étaient au courant, notamment les deux frères Tronchet qui à un moment donné hurlaient en disant « couchez-vous », qui sont cachés derrière des voitures, enfin, etc. Pour la plupart des gens dans la manifestation, il n'y avait pas connaissance de cette affaire. Alors, ce qui est en discussion, c'est qu'il semble, que l'un des soldats ait tiré d'une manière non autorisée par rafale, et il semble que l'un des soldats se soit responsable, enfin, plus que d'autres, etc. Mais on n'a pas pu tout éclaircir. Toutes les archives n'ont pas été ouvertes. Enfin, ça reste une affaire un peu compliquée. Cela étant, le bilan est terrible. Bon, c'est le bilan. C'est le même que tout à l'heure, 13 morts, mais 65 blessés. Parmi les 13 morts, Le premier mort, c'était le principal dirigeant du petit parti communiste qu'il y avait à l'époque, Henri Trupp, qui a aussi une tombe à Saint-Georges. Fürst, ouais, excuse-moi. Henri Fürst, donc. Et parmi les victimes, il y en a deux qui n'étaient pas forcément des manifestants. Il y avait un instituteur de Schönbourg, etc. Mais enfin, le bilan est extrêmement grave. Et la réaction des autorités a été de condamner, de faire un procès contre les organisateurs de la manifestation et de les faire condamner par le ministère public de la Confédération à des peines de prison. Et en particulier, Léon Nicole a fait un séjour en prison, au bout duquel il a été élu, comme je le disais tout à l'heure, devant sa tombe, conseiller d'État. Alors, cette affaire-là, le monde ouvrier et le mouvement ouvrier genevois, on a toujours eu la mémoire, mais cette mémoire n'a jamais été une mémoire reconnue. Et je vais maintenant passer la parole à Georges Tissot, qui va nous parler de 1982. Étant entendu qu'entre 1932 et 1982, vous savez, la mémoire, ça joue souvent par décennies, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements toutes les décennies, et l'événement le plus marquant et qui a laissé le plus de traces, c'est celui de 1982.
Alors, en préambule, j'ai retrouvé la phrase que Géo Ultramar disait de Jacques Dicker, donc, qui était un des deux mis en accusation ce soir-là, Géo Ultramar, donc c'est le fasciste. Il disait, parce que Dicker était conseiller national aussi, c'est une honte qu'un juif russe, tout juste bon à servir de conseiller national à des chimpanzés et à des ouistitis, représente Genève à Berne. On faisait dans le détail, je dois dire que les journaux de gauche ne faisaient pas tellement dans le détail non plus, mais quand même. Et puis, ce qui est intéressant par rapport au meeting, c'est qu'on reprochait à Dicker et à Nicole d'être de gauche, on reprochait à Dicker d'être juif et russe, et on reprochait aussi à tous les dirigeants, un peu les militants principaux, d'être tous des étrangers, y compris Nicole, parce que Nicole était vaudois, c'était un étranger, et il y en avait un qui venait de Savoie, il y en avait un qui venait du Jura, donc est-ce qu'on va laisser Genève se faire diriger par des étrangers? C'était aussi ça que Géo Ultramar écrivait dans le Pilori. Alors, en 82, comme l'a dit Charles Heimberg, il y a un comité qui s'est mis sur pied pour commémorer le 50e anniversaire. C'est vrai qu'il y a eu, en 72, il y avait eu une grande manifestation, mais c'était un peu, ça arrivait tous les 10 ans. Et il y avait l'idée de faire, ce qui s'est fait d'ailleurs, une exposition qui a été faite par l'Université ouvrière, je le dis parce que ça revient un petit peu après, et une manifestation de rue, et aussi plusieurs conférences, etc. Alors, le comité d'organisation a demandé le financement de financer un monument, c'était aussi une idée qui était née. Il a demandé au conseil administratif de la ville de Genève, qui a refusé, estimant, je cite, qu'il ne lui appartient pas d'assumer le risque d'affrontement que l'on peut craindre. Donc on est 50 ans après, le conseil administratif de la ville de Genève dit qu'il y a un risque d'affrontement sur le 9 novembre. Vous verrez après qu'il y a des gens qui ont effectivement essayé de supprimer le monument, mais bon, il faut déjà avoir des muscles plus que ce qu'ils avaient. Donc, devant ce refus, c'est lors d'un bureau de l'université ouvrière, oui. C'est lors d'un bureau de l'université ouvrière qu'on a dit, bon, on va faire un monument nous-mêmes, on va aller prendre une pierre et puis on va la mettre ici. Et c'est les militants, les camarades du syndicat du bâtiment, FOBB à l'époque, qui est devenu le SIB, et puis après UNIA, qui ont été repérés. Ils ont trouvé une pierre, celle qu'elle a maintenant, dans les sous-digues de Verbois, où il y avait des chantiers. Et ils ont amené cette pierre un jour à midi, midi et quart, midi et demi. Ils avaient bien pensé y faire la nuit pour que ça soit vraiment clandestin, mais ils se sont dit, la nuit, on se fera plus facilement repérer que si on vient là à midi avec un camion. Alors, ils sont venus avec un énorme camion. Ils ont posé la pierre, qui n'avait pas de soubassement à l'époque, donc il y avait un peu des craintes qu'elle dégringole. Elle est restée. Il y a une plaque qui a été posée, où c'était marqué « Aux victimes du fascisme, 9 novembre 32, 9 novembre 82 ». ce qu'était, on pourra en parler après parce que Charles aime bien parler des plaques, mais c'était juste faux, je veux dire, c'était pas des victimes du fascisme, c'était des victimes d'une manifestation, enfin, de l'armée, en l'occurrence. Bon, c'était à l'occasion d'une manifestation antifasciste, mais c'est pas les fascistes directement qui avaient tué les victimes. Cette plaque, elle a été enlevée plus tard, elle a été remplacée par une autre avec ce qui était l'inscription de la banderole de tête du 50e anniversaire, c'était aux victimes du 9 novembre 1932, plus jamais ça. C'est politiquement pas non plus terrible, c'est un peu comme sur la tombe de Fürst au cimetière Saint-Georges, où c'est marqué, donc c'est le premier qui a été tué le 9 novembre, c'est marqué Henri Fürst, victime du drame du 9 novembre 1932. Là, l'explosion de l'usine à gaz, ça aurait été, mais les victimes du... Bon. Et puis, après, il y a eu une négociation avec la ville de Genève et l'État, et cette pierre a été reconnue plus ou moins officiellement. D'abord, il y a un socle qui a été déposé, disant qu'elle était vraiment là, et puis il y a une plaque qui a été mise derrière, qui, elle, explique alors vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. On la verra tout à l'heure, donc, mais c'est ce que Charles Lemberg a raconté. Et puis, depuis, il y a toujours un moment et demi par année, le 9 novembre, 2 heures avant, 2 heures exactement avant le tir de l'armée, il y a une petite manifestation qui se tient là. Donc, c'est à 19h38, et en fait, c'était à 21h38 ou 34, je ne me souviens plus, j'y étais pas, que l'armée a tiré. Donc, il y a une petite manifestation, ça, c'est toutes les années. Et il y a eu, pendant longtemps, il y avait le 1er mai, le matin du 1er mai, il y avait une manifestation. Et depuis quelques années, depuis l'an 2000, sauf erreur, Charles vous l'expliquera tout à l'heure, c'est alterné. Il y a une année devant la pierre du 9 novembre et l'autre année devant le monument qui est de l'autre côté où on va aller tout à l'heure.
Alors on va, en termes de subalternité, on va vivre... La traversée piétonne de ce carrefour, qui est une expérience que je fais assez souvent, mais qui est pas évidente. Heureusement qu'on va être aidé cette fois par nos amis de la protection civile, parce que c'est pas si simple. Donc, on va aller voir la pierre. La pierre, on vous la laissera voir. On pourra pas être tous ensemble, parce que tellement c'est petit. Donc, il faut vous regarderez vite. J'oublie quoi ? Et simplement, j'aimerais souligner deux choses quand même sur cette pierre avant que vous alliez la voir. La première, c'est qu'elle n'a pas de statut officiel. Les autorités, encore aujourd'hui, n'ont jamais reconnu leur responsabilité dans cette affaire. Il y a eu des déclarations de membres du Conseil d'État à 2 reprises, Laurent Moutinho et Charles Bert, à un moment où le Conseil d'État avait une majorité de centre-gauche. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et ces déclarations ne sont pas stabilisées. Il n'y a pas de reconnaissance officielle et la pierre que vous allez voir, c'est une pierre qui a été apposée d'une manière militante, c'est une mémoire qui a été un peu forcée et les événements dont Georges Tissot a parlé tout à l'heure sont toujours des événements qui ont un caractère militant, qui sont propres aux associations et aux individus qui se considèrent comme les descendants des victimes de ce drame, mais ce n'est pas du tout une manifestation officielle. J'insiste là-dessus parce que ça va être un petit peu différent à la dernière étape. Et puis il a parlé d'une petite anecdote, mais pour vous montrer combien la mémoire aussi c'est quelque chose de malléable qui relève d'un certain nombre d'arrangements. Toutes les sources disent bien que la fusillade a eu lieu à 21h34. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est la chose la plus évidente. Mais les organisateurs des commémorations du 9 novembre, connaissant la température qu'il fait à 21h34 le 9 novembre à Genève, ont toujours voulu raconter que c'était à 18h34, donc ça a toujours lieu à 18h. On peut rien y faire, mais ça correspond absolument pas à la réalité, parce qu'en réalité, le 9 novembre, c'était bien à 21h. Mais la mémoire, c'est malléable.
Et de, alors de ma mémoire, c'est qu'à 18h34, il fait déjà suffisamment froid pour le 9 novembre. Ça a toujours été une horreur. Juste un petit, il y a des gens qui se sont indignés, puis encore hier, sur l'emplacement de la pierre, qui est mal placée. Enfin, maintenant, en plus, avec les travaux de la plaine, c'est pire. Il avait été d'abord, alors on voulait la mettre à l'endroit où les victimes étaient mortes. Il aurait fallu la mettre, ce que. Là-bas, non, mais là-bas, on voulait la mettre, mais c'est l'UBS, c'était un peu gênant. Là, il n'y avait pas de place. Ici, à l'époque, il y avait encore le palais des expositions, l'ancien, qui venait jusque-là, où il y a la grille. Devant l'église, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Donc, elle a été mise là, qui n'est pas le. D'abord, c'est un endroit où on ne voit pas du tout où était l'armée, mais enfin, bon, c'est ce qui est le plus proche. Après, il a été question de la déplacer, de la mettre ici. Il y a eu des controverses. L'université veut pas, disant qu'il faut la mettre là. Le comité du 9 novembre voulait pas, disant qu'il faut la mettre là-bas. Et puis il y en a qui disent, ouais, mais là-bas, c'est la mettre où les gens ont tiré. Donc vous mettez la pierre où il y avait les assassins et pas les victimes. Visiblement, Fürst est mort juste par là, juste là devant. Et les autres victimes, j'ai oublié de le dire, il y avait une des victimes qui était le patron de la boulangerie du Bourg de Four. Donc c'était pas tous
Mais
des
c'est
militants.
l'autre qui était parmi les trois.
Non, mais il y en avait un autre qui sortait des cours industriels, des cours
Ça, c'est
commerciaux.
l'instructeur, ça, c'est sûr.
Voilà, alors on va essayer, au péril de nos vies, de traverser ce carrefour.
Bien, alors nous sommes arrivés à la dernière étape, qui n'est pas la plus facile pour se faire entendre. Ce monument est très différent du précédent, en ce sens qu'il a un caractère officiel, puisque vous pouvez voir qu'il porte la signature de la ville de Genève. Et donc en 2000, à une époque où un certain nombre de. Enfin, la question de la mémoire antifranquiste se posait, notamment parce que les anciens combattants de la guerre d'Espagne, en particulier les combattants des brigades internationales en faveur de la République espagnole, commençaient à partir. Pour certains, la question de la mémoire s'est ravivée. Et à Genève comme ailleurs, il y a eu plusieurs. Enfin, on est un peu dans un air du temps où un certain nombre de monuments liés à la guerre d'Espagne émergent dans toute l'Europe, puisque pour rendre hommage à des combattants qui sont effectivement allés en Espagne depuis toute l'Europe, voire depuis toutes les parties du monde. C'est différent parce que. Alors, il y a un point commun. C'est qu'il y a eu pendant quelques années un comité pour la mémoire antifranquiste qui a lutté pour obtenir l'érection d'un monument rendant hommage aux combattants républicains, enfin suisses en Espagne républicaine. La différence, c'est que ce comité a obtenu gain de cause auprès de la municipalité de la ville de Genève. À une époque, à un moment où il y avait une majorité de gauche à la fois au conseil administratif et au conseil municipal, à une époque aussi, il faut quand même le souligner parce que je pense que ça a joué un rôle important, à une époque où l'une des conseillères administratives de la ville de Genève était Jacqueline Gournan, socialiste, qui était elle-même fille de brigadiste. Ce qui évidemment a joué, enfin, a évidemment joué un rôle. Ce monument donc a un caractère officiel. En même temps, il fait partie. Enfin, il a un lien avec l'autre monument en face, puisque, comme Georges Tissot l'a dit, le 1er mai au matin, dorénavant, la cérémonie qui a lieu le matin a lieu alternativement une année en face, une année ici. Il y a une petite anecdote à propos de ce monument, parce que vous voyez bien que ça. Que sa disposition n'est pas évidente, puis surtout cette disposition ne correspond à rien du tout en termes de. Enfin, c'est pas un lieu où quelque chose s'est passé par rapport à la guerre d'Espagne. Si on avait voulu faire un monument dans un lieu où quelque chose s'était passé par rapport à la solidarité avec la République espagnole, il aurait fallu le faire à la frontière du côté d'Annemasse, puisque par exemple l'essentiel du matériel qui était envoyé, notamment le plasma d'un docteur qui s'appelait Roger Fischer, était passé clandestinement la frontière et était expédié à partir d'Annemasse. Donc voilà, c'est un lieu dans la ville Et un jour, il a été proposé au comité, puis je me souviens avoir participé à cette séance, puis avoir dit, enfin, m'être un peu inquiété de la création d'un espèce de ghetto de la mémoire progressiste à Genève. Je trouvais vraiment pas terrible quoi, comme endroit. Et je me suis fait remettre à l'ordre. Enfin, en fait, il se trouve que dans ce comité, il y avait l'un des brigadistes concernés, qui était Eolo Morenzoni. Et bah, il se trouve que Eolo Morenzoni habitait juste là devant. Et donc, il n'y avait pas de raison de ne pas le mettre ici. Enfin, voilà, du coup, mon discours un peu intellectuel sur la question d'un ghetto de la mémoire progressiste n'avait plus de sens, quoi. Et puis, effectivement, il a été décidé de mettre ce monument artistique officiel dans cet endroit. Et voilà. Alors, une petite remarque quand même. On peut regretter qu'il ne soit question ici que des combattants, des brigades internationales. Il y a eu des combattants suisses et des combattantes suisses qui étaient dans des milices qui n'étaient pas liées aux brigades internationales. Et on aurait pu avoir une formule un peu plus large. Mais ce n'est pas grave par rapport à l'importance qu'il soit rendu hommage à ceux qui sont montrés solidaires de l'Espagne démocratique, qui subissait qui a subi le putsch des franquistes, des généraux franquistes. Voilà. Du coup, on a fini.